Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'échange de perspectives. Aujourd'hui, on aborde un moment politique vraiment singulier. On part des élections australiennes du 18 mai 1974.
Oui, le fameux scrutin convoqué par le Premier ministre travailliste de l'époque, Gough Whitlam.
C'est ça. Il force des élections anticipées via l'article 57, donc une double dissolution. Et personnellement, je suis persuadée que c'est une manœuvre audacieuse et surtout totalement nécessaire pour briser l'obstruction et imposer son mandat législatif.
Ah, là, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Pour moi, ce passage en force, c'était vraiment une erreur stratégique monumentale. C'est l'exemple parfait d'une victoire à la Pyrrhus.
Attendez, remettons-nous dans le contexte d'avril 1974. Whitlam, à ce moment-là, il est complètement acculé. Son plan initial était hyper astucieux. Il voulait nommer le sénateur dissident Vince Gair ambassadeur en Irlande.
Oui, pour créer une vacance de siège favorable au Queensland, c'est ça?
Exactement. Sauf que le Premier ministre local découvre le pot aux roses et il décide de bloquer la démission de Gair pendant ce qu'on appelle la fameuse nuit des longues crevettes.
Faut avouer que l'anecdote est presque burlesque.
Totalement. Ils ont littéralement noyé le sénateur sous les pintes de bière et les plateaux de fruits de mer pour l'empêcher de remettre sa lettre. Donc, après ça, Whitlam n'a plus le choix. Face à une opposition qui bloque tout, et avec 13% d'inflation liée au choc pétrolier, il choisit d'affronter le pays.
Il dissout les deux chambres, oui.
Voilà. C'est un pari super risqué, mais ça paye. Il préserve sa majorité à la Chambre des représentants.
Il conserve la Chambre, ouais. Mais au final, ça a servi à rien. Le problème fondamental qui l'a poussé à dissoudre, c'était le blocage du Sénat. Et cette élection n'a absolument rien réglé de ce côté-là.
Oui, mais...
Son slogan, c'était réclamer qu'on le laisse gouverner. Mais après le dépouillement, le Sénat s'est retrouvé complètement figé. Une égalité parfaite, 29 sièges contre 29. Le mur institutionnel contre lequel il s'écrasait est resté totalement intact.
Intact, vraiment. Hein. L'égalité au Sénat, ça n'a pas empêché Whitlam de contourner le mur, justement. Il a exploité très habilement la Constitution.
Vous parlez de la session conjointe?
Absolument. C'est là qu'intervient la mécanique subtile de l'article 57. Puisque le blocage persistait après les élections, il a légalement convoqué cette session. Il a, physiquement, réuni les membres des deux chambres dans la même salle pour voter ensemble.
Oui, c'est vrai.
C'est comme forcer deux conseils d'administration opposés à voter dans une seule pièce. Du coup, son avantage numérique à la Chambre basse a tout simplement noyé l'égalité du Sénat. Ça lui a permis de faire adopter ses 6 projets de loi, y compris Medibank, la couverture maladie universelle.
Bon, la mécanique est brillante sur le moment, je vous l'accorde. Mais regardez la chaîne de causalité redoutable que ça déclenche.
C'est-à-dire ?
En utilisant cette session conjointe pour écraser le Sénat, Whitlam a prouvé à la coalition conservatrice que l'obstruction classique marchait plus. Vous dites qu'il a contourné le mur, mais en réalité, il a forcé l'opposition à sortir l'arme nucléaire.
Le refus des crédits ?
Exactement. Puisque les votes normaux suffisaient plus, ils ont eu recours à cette mesure extrême. Bloquer les crédits d'approvisionnement. Sans budget pour faire tourner l'État, la crise devient insurmontable.
Ouais, enfin. L'opposition a sciemment choisi cette escalade destructrice. C'est pas Whitlam qui a imposé le blocage financier. Il avait un mandat du peuple pour passer Medibank et il a juste utilisé un outil légal pour le faire.
Un outil légal, certes, mais qui a brisé les conventions tacites de l'équilibre du pays. C'est ce blocage budgétaire, conséquence directe de sa manœuvre d'août, qui pousse le gouverneur général à destituer Whitlam en novembre 1975.
Je vois où vous voulez en venir.
Le scrutin de mai 1974, c'est pas un triomphe. C'est vraiment le premier acte de sa chute inévitable. En voulant résoudre la crise de front, il en a créé une autre qui lui a été fatale.
Je comprends l'argument, mais je maintiens que sans cette audace, son programme social serait resté lettre morte. Il a techniquement survécu au scrutin de 1974 et il a accompli la transformation promise, même si le prix politique fut exorbitant.
Le prix fut la destruction même de son gouvernement. Les fondations de son pouvoir en sont sorties irrémédiablement fracturées.
C'est toute la fascination qu'a bizarre ce moment, en fait. Jusqu'où le pouvoir exécutif peut-il forcer les rouages d'une démocratie pour briser une obstruction?
C'est le cœur du problème, oui.
Eh bien, nous laissons à nos auditeurs le soin de trancher cette question. Car en politique, les factures les plus lourdes à payer, c'est pas celles des plateaux de fruits de mer, mais bien celles des conséquences inattendues.